Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 26 août 2024. En direct de Washington, Rosine Mounetzero. Pour commencer, les titres. Nouveau massacre d'envergure au Burkina Faso. Samedi, plus de 100 personnes ont été tuées dans le village de Bastalogo. Dans le nord du Mali, au moins 15 personnes, dont des enfants, ont été tuées dimanche par des frappes de drones sur la ville de Tinzawatène. En République démocratique du Congo, de nouveaux combats entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23 ont éclaté hier dimanche. Et dans notre partie magazine, le réseau social TikTok, prisé surtout par les jeunes, semble avoir conquis le monde et le Bénin n'y échappe pas.
Quand je suis au cours, j'ai des étudiants qui passent le temps à regarder les TikTok. Il y a eu des exemples, ce qui fait que quand je vais au cours, l'un des premiers réflexes, c'est de demander qu'on ferme les téléphones.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Nouveau massacre d'envergure au Burkina Faso. Samedi, plus de 100 personnes ont été tuées dans le village de Bastalogo. Selon plusieurs sources, le gouvernement, dont une délégation s'est rendue à Kaya, au chevet des blessés, n'a pas fourni de bilan. Les détails avec Bagassi Koura.
Selon nos informations, la plupart des victimes sont des civils. Il s'agit de villageois que l'armée a mobilisés samedi matin pour creuser des tranchées afin de protéger le village contre d'éventuelles attaques terroristes. Les travaux ont commencé sous bonne garde de l'armée dans la matinée, selon des habitants dans la région. Et quelques instants après, plus d'une centaine d'hommes armés sont arrivés et ont ouvert le feu sur les villageois, selon des sources concordantes. La plupart des victimes auraient été abattues dans les tranchées qu'ils creusaient, ce que semble confirmer une vidéo qui a largement circulé sur les réseaux sociaux et montrant des dizaines de corps dans les tranchées. Le gouvernement n'a pas donné de bilan. Nous ne connaissons pas encore le nombre de morts, a dit dimanche soir Siaka Koulibaly, un conseiller du Premier ministre, lors d'une émission spéciale sur le drame de Bastalogo. Ça peut ne pas atteindre les chiffres qui circulent, a-t-il soutenu, reconnaissant toutefois que, je cite, « certainement ça sera important ». Une équipe gouvernementale composée entre autres des ministres de la Défense, de la Communication et de la Santé s'est rendue dimanche au chevet des blessés à l'hôpital de Kaya, dans leur point de presse à la télévision nationale, suite à cette, je cite, « visite de solidarité aux blessés », ils n'ont mentionné ni le bilan des morts, ni donné le nombre de blessés.
En Zambie, 8 corps ont été extraits d'une mine de gravier qui s'est effondrée dimanche, un accident tragique qui a eu lieu en fin de matinée à quelques 45 km à l'est de la capitale Lusaka, a annoncé la police dans la soirée. Les opérations de secours qui ont dû être suspendues dans la soirée en raison de conditions difficiles sur le site devraient reprendre lundi matin. Dès l'aube, précise encore la police. Dans le nord du Mali, au moins 15 personnes, dont des enfants, ont été tuées dimanche par des frappes de drones sur la ville de Tinzawatène, près de laquelle l'armée a subi une lourde défaite le mois dernier, ont déclaré des sources concordantes. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
L'armée de la junte malienne et les mercenaires russes du groupe Wagner ont exécuté plusieurs frappes de drones venues du Burkina Faso à Tinzawatène, à quelques mètres du territoire algérien, affirment les séparatistes qui font état d'un bilan provisoire d'une vingtaine de civils tués, dont une dizaine d'enfants, des dizaines de blessés et des dégâts matériels énormes. Selon Mohamed El Maouloud Ramadan, le porte-parole des séparatistes, les frappes ont ciblé dans un premier temps une pharmacie avant que d'autres ne visent des maisons civiles, d'autres parties de la ville et des attroupements humains après des premiers dégâts. Un élu local soutient qu'il n'y a eu que des civils tués. « On est sans nouvelles d'autres civils », a ajouté un responsable d'une ONG locale. C'est dans la même localité de Tinzawatène que les séparatistes et les djihadistes ont affirmé avoir tué des dizaines de membres du groupe paramilitaire russe Wagner et des soldats maliens lors de combats entre le 25 et le 27 juillet. L'armée malienne et le groupe Wagner avaient reconnu des pertes importantes sans donner de bilan précis. Cette défaite est l'une des plus lourdes subies en une bataille par le groupe Wagner en Afrique.
10 personnes ont été tuées et 8 autres grièvement blessées hier en Éthiopie lors d'un glissement de terrain survenu dans la zone septentrionale de Gondar, l'ancienne cité impériale dans la région Amhara, dans le nord du pays, selon le média officiel de la région, l'Amhara Media Corporation. Il ne précise pas si les recherches se poursuivent ni à quelle heure s'est produit le glissement de terrain. En République démocratique du Congo, de nouveaux combats entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23 ont éclaté hier dimanche autour d'une ville densément peuplée dans l'est de la province du Nord Kivu où les rebelles mènent une insurrection. C'est ce qu'ont déclaré l'armée et le M23. Le point avec Nani Talani.
Selon le porte-parole du M23, Willy Ngoma, les forces gouvernementales avaient attaqué plusieurs positions rebelles autour de Kirumba tôt dimanche matin. Dans un communiqué, l'armée a fait état d'affrontements avec le M23 dans le village de Kikuvo, à une douzaine de kilomètres de Kirumba, centre économique du territoire congolais de Lubero, dont les rebelles du M23 s'étaient emparés à la fin du mois de juin. Le M23 s'est également emparé à la même époque de la ville voisine de Kanyabayonga. Comme de nombreuses villes de la région, Kirumba et Kanyabayonga accueillent des milliers de personnes déplacées. Le M23 mène une nouvelle insurrection dans l'est de la RDC en proie aux milices depuis 2022. Les efforts militaires visant à repousser les rebelles se sont intensifiés au cours de l'année écoulée, alors que les cessez-le-feu négociés au niveau régional ne cessent d'échouer. Le dernier en date a été conclu à la fin du mois de juillet et devait commencer le 4 août. La RDC, les Nations Unies, les États-Unis et d'autres gouvernements occidentaux accusent le Rwanda de soutenir le groupe des rebelles. Kigali nie ces accusations qui ont également fortement envenimé ses relations avec son voisin congolais.
Le Congo-Brazzaville dit avoir recensé 21 cas confirmés de Mpox. Depuis le début de l'année, nous avons enregistré 158 cas suspects de Mpox et les cas confirmés, nous en avons 21, a déclaré ce dimanche à la télévision publique le ministre de la Santé, Gilbert Mokoki. La maladie touche 5 des 15 départements du pays, notamment les régions forestières de la Sanga et de la Likuala dans le nord, a indiqué M. Mokoki. Deux policiers ont été tués hier dimanche et 3 autres hospitalisés inconscients à Abuja, la capitale nigériane, lors d'une attaque à l'arme blanche et à l'explosif perpétré par un groupe chiite nigérian pro-iranien. C'est ce qu'indique la police dans un communiqué. Davantage avec Gabi Dorsil.
Le commandement de la police du territoire de la capitale fédérale du Nigeria confirme une attaque gratuite du mouvement islamique du Nigeria contre des membres des forces de la police nigériane. C'est ce qu'a écrit une porte-parole de la police, Joséphine Adé. L'organisation interdite a attaqué le poste de contrôle de la police sans provocation, en brandissant des machettes, des engins explosifs improvisés et des couteaux, a-t-elle ajouté dans un communiqué. L'attaque a eu lieu à un barrage de police au cours duquel des policiers ont été tués, d'autres ont été transportés inconscients à l'hôpital et 3 véhicules de patrouille de la police ont été incendiés. Selon la police, les assaillants étaient en possession de machettes, de couteaux et de bombes artisanales. La situation est actuellement sous contrôle, ont assuré les forces de l'ordre, précisant avoir procédé à plusieurs arrestations. Elles promettent de traduire en justice les personnes impliquées. Le mouvement islamique du Nigeria a été interdit par les autorités d'Abuja en 2019.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël a lancé de multiples frappes aériennes hier dimanche au Liban et a affirmé avoir déjoué une attaque à grande échelle du Hezbollah. Mais le mouvement libanais s'est prévalu d'avoir lancé des centaines de drones et de roquettes sur le territoire israélien pour venger la mort d'un de ses chefs, Abdourahman Dia.
L'armée de l'air israélienne dit avoir lancé, peu avant 5 heures locales, une opération complexe durant laquelle une centaine d'avions ont frappé des milliers de rampes de lancement de roquettes pointées vers le nord d'Israël dans 40 zones de tir dans le sud du Liban. Les tirs du Hezbollah faisaient partie d'une attaque planifiée et nous avons pu en déjouer une bonne partie, précise un porte-parole militaire. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prévenu qu'Israël n'avait pas dit son dernier mot avec ses frappe. Les États-Unis se disent prêts à soutenir la défense d'Israël, leur allié. Le Hezbollah libanais a lui qualifié son attaque de succès, la présentant comme la première phase de la riposte à l'assassinat de Fouad Chokr. Il indique avoir lancé un grand nombre de drones sur le territoire israélien et tiré plus de 320 roquettes sur 11 bases militaires en Israël et sur le Golan syrien occupé par Israël. Israël assure que cette base n'a pas été touchée.
Ici aux États-Unis, l'équipe de la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris a annoncé ce dimanche avoir levé 540 millions de dollars depuis le début de sa campagne il y a un mois. La campagne du candidat républicain Donald Trump avait de son côté déclaré début août avoir quelque 327 millions de dollars à disposition à trois mois d'une élection américaine où ces centaines de millions de dollars sont nécessaires pour notamment financer la diffusion de publicités politiques à la télévision. L'Ukraine a accusé dimanche son voisin, le Bélarus, proche allié de la Russie, de masser des troupes à leurs frontières et a mis en garde Minsk contre d'éventuels actes inamicaux. Voilà pour le journal. Vous écoutez VO Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Rio Tinto et le fabricant d'équipements de construction XCMJ ont établi un nouveau partenariat pour un projet d'exploitation du minerai de fer à Simandou en Guinée. Le contrat de plus de 110 millions de dollars porte sur des dizaines de camions miniers, des niveleuses, des équipements auxiliaires, des chargeuses et excavatrices de production. Les deux entreprises se sont engagées à investir dans des programmes de formation professionnelle qui vont contribuer au développement des communautés autour de la zone minière. Kimfai, principal fabricant de produits d'hygiène et de tissus en Afrique de l'Est, a obtenu un financement du Fonds norvégien d'investissement pour les pays en développement pour une installation à Tatu City, zone économique spéciale de 5000 acres aux portes de Nairobi. Les fonds seront consacrés à la construction d'une usine de fabrication de papier recyclé. La nouvelle installation devrait être opérationnelle d'ici 2025. Tatu City est une ville nouvelle avec des maisons, écoles, entreprises, commerces, une clinique et des zones naturelles et de loisirs pour plus de 250 000 résidents. Plus de 80 entreprises prospèrent dans cette zone économique spéciale. Les avantages commerciaux de la ZES de Tatu City comprennent la détaxation de la TVA, l'exonération des droits d'importation et un impôt sur les sociétés de 10% pendant les 10 premières années et 15% les 10 années suivantes.
Place maintenant au sport avec Élisée Sonia. Bonjour Élisée.
Bonjour Rosine et bonjour à tous.
L'actualité sportive marquée par le football, les interclubs de la CAF et fin hier du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions.
Oui, et pour la troisième fois de suite, Coton FC de Ouida est éliminé au premier tour. Cette fois par les Burkinabés de l'AS Douane. Ça cale aussi pour le club champion du Cameroun, Victoria United, écarté par les Ghanéens de Samatès 2-0 sur l'ensemble des deux matchs. En revanche, qualification des Togolais de l'ASCO du Cara, 5-1-0 des Équato-Guinéens du Deportivo Mongomo. Au prochain tour, le club de la Cousa fera face aux Maliens du Djoliba. Et puis, les Ivoiriens du FC San Pedro, les Guinéens de Milo FC, les Congolais de Maniema Union et les Algériens du Sierre Belouizdad joueront les barrages, tout comme les Marocains de la SFA victorieux 2-0 des Nigériens de Remo Star.
Le Maroc aura donc ses deux représentants au barrage de cette Ligue des Champions.
Tout à fait. Le Raja de Casablanca accompagnera Asfa après avoir écrasé 5-0 les Nigériens de la garde nationale. Facile aussi pour les Tanzaniens de Young Africans, tombeur 6-0 des Burundais de Vitalo. Plus difficile cette fois à Dakar pour les Ivoiriens du stade d'Abidjan qui ont dû recourir à la séance des tirs au but avant d'écarter les Sénégalais de Tongata. Qualification également des Nigériens de Nouveau Rangers, des Sud-Africains d'Orlando Pirates, des Rwandais d'APR et des Soudanais d'Almeriac.
On passe à l'échelon inférieur, la Coupe de la Confédération et on connaît aussi les qualifiés pour le dernier tour.
On peut noter les Togolais de la SCK qui sont allés chercher leur qualification à Niamey aux dépens des Nigériens de l'ASFAN. Au prochain tour, ils joueront les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa. Le second club d'Abidjan, le Racing Club, lui, sera opposé aux Sénégalais du Djaraf, tombeur 3-0 des Sierra Lyonnais de Hits and Lions. D'ailleurs, de belles affiches nous attendent à ce dernier tour. On retient entre autres à la Ligue Tripoli Simba Sport de la Tanzanie ou encore Stade Tunisien USM Alger. Les matchs allés sont prévus dans le week-end du 13 au 15 septembre prochain.
On termine avec du basketball, les tournois de pré-qualification pour le mondial qui aura lieu en Allemagne en 2026.
Et le Sénégal n'obtiendra pas l'unique ticket des éliminatoires de Kigali au Rwanda. Les Lions ont été largement battus en finale par la Hongrie 63-47. Elles devront désormais finir parmi les 4 meilleurs du prochain Afro-Basket prévu en 2025 afin de valider leur qualification pour le mondial.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, les récentes inondations ont laissé plusieurs quartiers de N'Djamena coupés du centre-ville et de nombreuses personnes sans abri. Pour se déplacer d'un coin à un autre, ces sinistrés et beaucoup d'autres habitants des quartiers périphériques retournent à la pirogue, moyen de déplacement de prédilection. André Codemandigar, correspondant de VOA Afrique, nous fait le point.
Plusieurs habitants des banlieues de N'Djamena, capitale du Tchad, vivent tous les jours dans l'angoisse. Ils font face aux fortes averses qui ont détruit des maisons et ralenti les activités génératrices de revenus pour de nombreuses familles vivant au jour le jour. D'autant pointent du doigt les responsables politiques.
Il y a un manque de volonté politique. Ce que le gouvernement est en train de faire ne répond pas aux exigences parce que les dégâts sont plus, les caniveaux ne sont pas trop larges. Et vu la quantité de l'eau qui est stagnée, c'est comme mettre un tuyau de 2 cm pour une grande quantité d'eau. Ça, c'est bien impossible.
40 à 50% de la ville de N'Djamena est paralysée par les inondations. Le gouvernement doit mettre encore du paquet pour pouvoir mettre les personnes touchées à l'abri.
D'autres reconnaissent l'effort du gouvernement pour faire face à la situation.
Moi, je ne pense pas que le gouvernement ne fait pas d'effort. Le gouvernement fait du mieux possible, mais elle va encore doubler ce qu'elle fait à la fois d'eux pour pouvoir arriver à peut-être prévenir les cas d'inondation. Parce que si les données de la météorologie sont déjà là, le gouvernement devait engager des travaux en amont.
Une situation qui profite à une catégorie de jeunes. Dans certaines zones totalement inaccessibles, ces jeunes mettent à la disposition des sinistrés des pirogues pour les aider à traverser, moyennant une rémunération.
On a pris tout notre temps pour venir aider les gens à traverser de l'autre côté. On prend de 50 francs partout, puisqu'il y a beaucoup de gens qui traversent. On gagne des fois les 5 000, les 4 000 francs. Donc ça nous aide un peu. Notre objectif, c'est pour aider. Et donc, si on voit la personne qui coincé, nous on l'aide simplement, sans toutefois prendre quelque chose.
Le maire de la commune du 7e arrondissement la plus touchée par cette inondation, Atif Mahamad Abbas, demande aux personnes de bonne volonté de voler au secours de sinistrés logés dans un établissement scolaire de sa circonscription.
Les gens voulaient qu'on va sauver carrément la vie. Non, parce que le dégât est là déjà, donc tout le monde doit être uni pour qu'on sauve notre capital et notre rançon. Pour le moment, tout le monde on a amené au niveau de l'effet de gaz. Mais parfois, les populations refusent. Et donc, nous, quand on sort, les voleurs vont venir prendre nos habits, nos matériels, nous saisissons là, mais on ne peut pas laisser comme ça. On entre avec l'Europe pour leur amener dehors. Et on envoie un véhicule pour amener et acheminer au niveau du lycée de Gassi. Et je demande à toutes les populations de cette maison, surtout le monde des moyens, il faut se trouver la reine, frère et cher, partager cette douleur ensemble.
Selon une enquête menée par le gouvernement et ses partenaires humanitaires dans quelques quartiers de N'Djamena, près de 10 000 ménages sont affectés. Et par ce phénomène naturel, la ministre en charge de l'action sociale lance un appel à tous les partenaires humanitaires d'agir de manière coordonnée et solidaire aux côtés des autorités tchadiennes en faveur de ces milliers de Tchadiens qui se retrouvent aujourd'hui sans abri, privés de leurs moyens de subsistance et vivant dans des conditions précaires. André Kordouma-Djingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena. C'est 93.1 FM au Tchad.
Au Gabon, la principale société de distribution d'électricité et d'eau, victime d'une fraude informatique. Un scandale financier inédit est révélé à la suite d'un audit interne. La société a porté plainte contre X pour vol, détournement et cybercriminalité. Les premières investigations accablent plusieurs cadres d'entreprises et des hautes personnalités du pays. Ils avaient mis en place un réseau parallèle de vente de tickets prépayés de la société. Cette situation perturbe la fourniture d'eau et d'électricité dans les ménages à Libreville. Le reportage de notre correspondant sur place, Ismaël Obiangdé.
Lundi à vendredi, on a le courant coupé tous les jours.
C'est le quotidien de tous les ménages gabonais. Des coupures de courant qui interviennent 2 à 3 fois par jour. Un phénomène très inquiétant dans les quartiers où règne déjà l'insécurité.
Il est 20h21, nous sommes dans le noir. Depuis le matin, les gens ne se lavent pas.
Au délestage décrié un peu partout dans les grandes villes du pays, se sont ajoutées les coupures d'eau. Insoutenable pour Jeannette et Claudine, ces deux femmes au foyer redoutent la perte de leurs appareils électroménagers devant l'ampleur de la situation.
Il faudrait qu'on ait l'eau. 3 jours, on n'a pas d'eau. On n'a pas de courant. La nourriture se gaspille. On fait comment?
On paye le courant.
Les petits frigos que nous avions dans les maisons, les petits congélateurs que nous avions, les petites télévisions que nous avons, papa, si ça se gaspille.
Au cœur de ces dysfonctionnements, qui ne sont pas nouveaux, un vaste détournement des recettes de la société par ses partenaires. Ceci aurait installé un serveur parallèle de vente des tickets prépayés. Les pertes sont énormes pour la SEG, déjà en grave difficulté financière. Pour les partenaires sociaux, les enquêtes en cours doivent aller jusqu'au bout. Eric Mwangamusavu, porte-parole de Sainte Plus.
Le Sainte Plus encourage la direction générale et le CTRI à poursuivre ces actions salvatrices au profit de la SEG, tout en évitant l'ingérence externe et même interne par l'implication des ressources humaines SEG qui pourraient biaiser ou compromettre le succès de leurs opérations.
Une cybercriminalité d'une gravité sans précédent, la SEG a pris des mesures urgentes contre les présumés fraudeurs tapis dans l'ombre de l'entreprise. Maître Ange Kevin Zigou, avocat de la SEG.
La direction générale de la SEG a décidé de restreindre immédiatement l'accès au système d'information à toutes les personnes identifiées comme étant impliquées dans cette fraude. La SEG augmentera le nombre de ses propres caisses pour réduire la dépendance envers les partenaires externes et garantir une meilleure maîtrise des transactions avec les partenaires sérieux.
Tel est malheur qui n'arrive jamais seul. Agrico, l'opérateur britannique qui fournit 30% de l'électricité distribuée par la SEG dans le Grand Libreville, réclame aussi le paiement d'une ardoise de 15 milliards de francs CFA, l'équivalent de ses prestations. Elle a obtenu le paiement de la moitié de la dette, ce qui permet à Libreville un retour progressif à une situation normale. Ismaël Obianze pour VOA Afrique, Libreville.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le réseau social TikTok semble avoir conquis le monde et le Bénin n'y échappe pas. Prisé par les jeunes surtout, TikTok est devenu pour certains un outil de communication et de concrétisation de grands projets, mais pour d'autres, cette application reste un moyen de perdition et de dépravation des mœurs. Quelles sont les conséquences de l'utilisation de TikTok par les jeunes au Bénin? Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
Comme tous les médias sociaux existants avant lui, TikTok, dès sa création, a fait l'unanimité au sein de la jeunesse béninoise. Mais ils sont une infime frange de cette couche de la société qui s'en servent à des fins éducatives.
Le niveau éducatif est complètement affecté puisque sur TikTok, il y a des choses qui ne donnent pas vraiment de conseils à l'évolution humaine.
Quelqu'un qui passe tout son temps sur TikTok n'a plus beaucoup de temps pour les cours.
Ce sont les femmes qui s'adonnent trop à ça.
Il y a des gens qui ont fait ça comme de la vengeance.
TikTok, aujourd'hui, c'est la dépravation, surtout côté fille. Là.
L'application dispose d'une fonctionnalité qui rend accro ses utilisateurs et les pousse à des défis à se lancer des propos déplacés et même des menaces de mort.
TikTok n'a pas une influence négative, mais c'est plutôt l'utilisation qu'on en fait. Il y a certains qui, par TikTok, intimident. C'est-à-dire, c'est une forme d'intimidation, cyber-intimidation, j'allais dire.
Michael Bocor est spécialiste de l'éducation. Il évoque le cas le plus déplorable sur TikTok, notamment la dépravation des mœurs, tout en rappelant que l'utilisation de TikTok affecte négativement le rendement académique.
En matière d'enseignement, apprentissage au niveau de la pédagogie, ça diminue l'apprentissage là-bas parce qu'ils n'ont plus le temps pour la lecture des documents, la lecture des cours, et à la fin, vous constatez les résultats, hein, c'est des échecs.
Raymond Assoba est docteur en sociologie à l'université d'Abomey-Calavi. Il souligne ici la façon dont TikTok influe négativement sur le comportement de nombreux étudiants.
Je vous dis que quand je suis au cours, j'ai des étudiants qui passent le temps à regarder les TikTok. Il y a eu des exemples, ce qui fait que quand je vais au cours, l'un des premiers réflexes, c'est de demander qu'on ferme les téléphones.
Comme Kwasi Bernard est psychologue clinicien, il met l'accent sur les effets néfastes que peut entraîner l'utilisation abusive de TikTok sur la santé mentale et physique des étudiants.
Le risque, c'est la dépression, le stress aigu, la confusion mentale. Ouais, et ça, c'est lié, ce n'est pas seulement santé mentale, même le corps physique prend un coup aussi. Tout ça, ça peut amener à des conséquences plus graves, comme le suicide.
Les réseaux sociaux offrent des opportunités, mais peuvent détruire selon l'utilisation qu'on en fait. Dr Maoussi Wenceslas, maître assistant des universités de Kames, expert en médias, parle ici des l'impact de TikTok et de son utilisation sur la vie des étudiants béninois.
Lorsque vous allez sur Internet pour faire des recherches de chimie ou de physique et que vous tombez sur des informations, je ne sais pas moi, érotiques, voire même pornographiques, et que vous vous y attardez, la faute est à qui ? Au jeune qui va innocemment chercher l'information ou à la société qui ne prend pas de dispositions pour que certains liens lui soient interdits ? La société elle-même sexualise tout.
Pour contrôler l'ampleur des réseaux sociaux, plus précisément TikTok, il faut nécessairement une politique d'encadrement et de sensibilisation des jeunes pour une utilisation responsable et profitable des plateformes numériques au Bénin. De Cotonou, Ginette Créa dans les Pouvoirs Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, les livres scolaires manquent dans les rayons des librairies. Les parents éprouvent des difficultés à acheter les nouveaux manuels inscrits au programme dans le sous-système anglophone ou francophone pour le compte de cette année scolaire. Les éditeurs évoquent plusieurs raisons au sujet de ce dysfonctionnement. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Des sacs pour les bambins de la maternelle en plus.
La saison des achats bat son plein à Yaoundé, à moins de deux semaines de la rentrée scolaire. L'affluence est en hausse dans les librairies, mais la plupart des parents d'élèves, à l'instar de Jean Tchoufa, qui veulent acheter des livres inscrits au programme, sont insatisfaits.
Le fait est que comme on vient de changer d'abord le programme des livres, c'est un peu bouleversé, de 6e en 3e, donc ça chamboule un peu les choses. C'est vrai, dans certains librairies, on trouve tout, comme ici, ou par rapport aux autres où il n'y a pas tout.
Pour cette année scolaire, les livres au programme depuis 5 ans ont été retirés de la liste des manuels par les deux ministères en charge de l'éducation. Les éditeurs, pour la plupart des locaux, ont été choisis pour fournir de nouveaux livres qu'on ne trouve pas encore dans les rayons. Ce qui suscite une vive critique de Benoît Bata, enseignant de physique à la retraite.
Ils disent que le cycle de vie, c'est d'être 5 ans. Mais quand tu vas regarder dans le contexte, c'est le même module. L'histoire des documents, des livres, c'est du business. L'enfant ne comprend absolument rien.
Au boulevard du 20 mai, au centre-ville, une foire de livres se tient à l'initiative du ministère du Commerce. Solo, un libraire présent à cette foire, s'explique sur la disponibilité des livres scolaires.
Pour le moment, nous ne disposons pas des livres. Et lorsque nous allons demander aux fournisseurs, ils nous rappellent tout simplement que les éditeurs évitent de mettre les livres à disposition pour le moment, de peur de faire pirater leurs livres. Pourtant, il est question de mettre les livres à la disposition des clients au moins un mois avant la rentrée scolaire. Et tous les livres du premier cycle secondaire, pour la plupart, manquent. Les activités aussi au primaire manquent encore jusqu'ici.
Roger Choupeau, un libraire installé au quartier Mvan au sud de Yaoundé, évoque d'autres raisons.
Les fournisseurs nous font comprendre qu'il y a lenteur, mais ce n'est pas de leur faute. C'est parce que peut-être les bateaux ont traîné. On espérait qu'au plus tard, le 20, on devrait avoir la totalité des manuels. Mais ils continuent à nous promettre encore jusqu'à la fin de ce mois d'août.
NMI Education est l'un des plus importants éditeurs de livres scolaires au Cameroun. Cette année, certains livres de cet éditeur ne sont pas encore dans les rayons. Gisèle Ngadeyi, directrice générale de NMI Education.
À quelques semaines de la reprise effective des cours, je peux affirmer sans risque de me tromper que les manuels de NMI Education sont à 98% disponibles. C'est vrai que nous sommes en train de décharger 3 conteneurs pour pouvoir atteindre ce quota de 98% de disponibilité sur le marché. La plupart de nos manuels viennent de l'étranger et cette année particulièrement au niveau du port, il y a un problème de congestion. Les bateaux traînent déjà pour arriver et quand même le bateau accoste, il faut du temps pour que le conteneur soit déchargé. Il y a beaucoup de formalités pour que ces conteneurs sortent. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle dans le marché, en général, tous les manuels ne sont pas disponibles.
Le gouvernement a reporté la date de la reprise des cours au 9 septembre prochain, au lieu du 2 comme initialement prévu, afin de permettre aux différents acteurs du système éducatif de mieux se préparer. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Monezero, à la mise en onde, Firmin Koyaouida. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.